As you've probably heard by now, we've teamed up with BetMGM this season. We'll be using BetMGM lines to make all of our picks, and we'll have special offers for our listeners each week. If you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC, and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager with BetMGM. Here's how it works. Download the BetMGM app and sign up using bonus code THEATHLETIC. Make your first deposit of at least $10, place your first bet on any game, and claim your voucher for a one-year subscription to The Athletic. See BetMGM.com for terms. U.S. promotional offers not available in D.C., Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. Call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369 in New York. Call 1-800-NEXT-STEP in Arizona. 1-800-327-5050 in Massachusetts. 1-800-BETS-OFF in Iowa. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-981-0023 in Puerto Rico. First bet offer for new customers only in partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel. Don't forget, if you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager. Customers are rushing to your store. Do you have a point-of-sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. Shopify POS is your command center for your retail store. From accepting payments to managing inventory, Shopify has everything you need to sell in person. With Shopify, you get a powerhouse selling partner that effortlessly unites your in-person and online sales into the one source of truth. Track every sale across your business in one place and know exactly what's in stock. Connect with customers in line and online. Shopify helps you drive store traffic with plug-and-play tools built for marketing campaigns from TikTok to Instagram and beyond. Get hardware that fits your business. Take payments by smartphone, transform your tablet into a point-of-sale system, or use Shopify's POS Go mobile device for a battle-tested solution. Plus, Shopify's award-winning help is there to support your success every step of the way. Do retail right with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/theathletic, all lowercase. Go to shopify.com/theathletic to take your retail business to the next level today. Shopify.com/theathletic.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal. Par athlétique.com, c'est Marc-Antoine Godin en compagnie de Arpin Basu en ce vendredi 17 février. Bonjour Arpin, en direct de Toronto.
Salut Marc-Antoine, oui, je suis en direct de Toronto où le Canadien s'entraîne pas aujourd'hui. Puis après 4 heures de délai pour mon vol, je suis là. Alors, je sens l'énergie de la ville, puis tout, puis le gros affrontement canadien-Toronto qui nous attend samedi, mais oui, c'est honnêtement, c'est bizarre, mais le Canadien a perdu 6-2 hier soir à Raleigh, mais je trouvais quand même qu'ils ont comme bien joué. Ils ont juste comme... Il y a eu un effondrement à un moment donné, mais ils ont joué avec la Caroline sans Kirby Doc pendant plus que 40 minutes. Alors, honnêtement, là, je serais pas si déçu si j'étais le Canadien avec l'alignement qu'il y avait. Et toutes les circonstances, là, je trouve que c'était un des bons matchs qu'on a vu. C'était, en fait, je trouve que c'était même meilleur que certains des victoires dernièrement. Là.
Ben oui, ils ont tenu le coup. Ils ont survécu pendant les deux premières périodes. Après ça, 3 buts en un peu plus de 3 minutes. Le match s'est joué là, mais c'est drôle parce que on pouvait voir à la télévision le temps d'arrêt que Martin Saint-Louis a demandé. Uh-huh. Après le troisième but de cette séquence-là, où il a dit à ses hommes « Do your job ». Puis il était comme...
Mais c'est tout ce qu'il a dit. C'est ça la beauté de la chose. Honnêtement, il a parlé pendant comme peut-être 15 secondes. Il a dit « Do your job », il a sacré un peu, puis il a terminé avec « Do your job », puis il a arrêté. Puis là, tous les gars étaient juste comme ça. Puis honnêtement, j'ai hâte, je vais lui demander demain matin, là, mais il me semble que c'est la première fois que Martin Saint-Louis a fait ça. après tant d'arrêts juste pour engueuler son équipe. Puis ouais. La titre. Toutes les autres temps d'arrêt, c'était avec un 6 contre 5 ou pour avec un power play, c'était stratégique. C'était pour organiser un jeu ou organiser une séquence à un moment critique du match. Il me semble que c'est la première fois qu'il prend un temps d'arrêt simplement pour engueuler son équipe. Alors, félicitations, Martin Saint-Louis. C'est un nouveau moment dans ta carrière de coach. Si c'est bien cool, je vais lui demander hier s'il l'a fait déjà, mais il me semble que non. Je pense que c'est la première fois.
Ben, probablement pour un changement de gardien, là, mais pour ce type d'intervention-là, effectivement, je ne me souviens pas moi non plus. Puis honnêtement, Arpin, j'ai l'impression que c'est un outil qui est à la disposition des coachs. Et à un moment donné, là, quand tu sens que tu n'utiliseras pas, ben, de toute façon, les challenges, le règlement pour les challenges a changé, mais j'ai l'impression qu'à chaque match, les entraîneurs devraient utiliser leur temps d'arrêt. C'est pas quelque chose qui... Tu sais, ils n'ont pas le réflexe de le faire, puis c'est comme, il faut que la situation soit périlleuse pour qu'on l'utilise, mais il est là. À chaque match, on t'en donne un. Prends-le. Pourquoi c'est si rare?
Ben, je pense que non seulement le règlement pour le challenge, qui effectivement a changé, mais tu veux l'avoir pour... Si jamais tu as besoin d'un moment pour faire de la stratégie. Tu sais, c'est comme... Si un gros mise en jeu en fin de match et t'as besoin d'un but, ça pourrait être important. Alors, je pense que le fait que t'en as juste un fait en sorte que l'utiliser, tu sais, à 6-2, on s'entend que, tu sais, Martin Saint-Louis savait très bien qu'il n'avait pas besoin d'un temps d'arrêt à la fin du match pour cette raison-là. C'est très peu probable que le Canadien allait revenir dans le match. Alors, le moment était bon pour lancer un message, mais effectivement, quand t'es dans le match, mais que ça va pas bien, mais disons que tu perds. Disons que tu menais 3-1, puis là, tout d'un coup, tu perds 4-3. Tu es en troisième période. Tu veux le faire, mais... Puis tu as aussi les temps d'arrêt pour les annonces, les annonces publicitaires là, au télé. Alors, tu veux le faire, mais tu te dis, OK, à la fin du match, il faut qu'on retire notre gardien, puis on a mis en jeu en zone offensive, on aimerait avoir la possibilité d'organiser quelque chose. Alors, c'est ça. Je pense que si tu veux que les coachs le fassent plus souvent pour ça, il faut leur donner deux. Je pense que c'est ça. C'est
ouais. Mais tu vois, c'est comme. J'apparente ça au closer au baseball. C'est-à-dire que traditionnellement, tu dis ah, je vais garder mon meilleur releveur pour la fin de match pour protéger une avance. Puis si j'ai pas à protéger d'avance, je ne sortirai pas. Là, on a commencé à avoir une évolution dans l'utilisation des meilleurs releveurs. On va commencer à les appeler comme ça parce qu'ils ne sont pas nécessairement dans la situation de sauvegarde de fin de match, mais tu les utilises au moment où la situation le demande le plus. Et, tu sais, c'est bien beau de dire « Ah, ben, je vais me le garder au cas où j'en aurais besoin pour une raison stratégique en fin de rencontre. » Mais des fois, c'est justement, c'est le changement de momentum, c'est le message que tu veux passer qui est peut-être plus urgent si tu veux même te rendre dans la position où tu vas devoir faire de la stratégie en fin de rencontre.
Ouais.
Alors, c'est ça. Mais bon, toujours est-il, aujourd'hui, Arpin, on va s'attarder à... Un des deux marqueurs du Canadien hier, Raphaël Harvey-Pinard, qui, mine de rien, avec 7 buts déjà à son actif, est à égalité avec Cole Perfetti et J.J. Peterka, deux recrues quand même d'assez assez bien cotées à l'échelle de la Ligue nationale. Et il l'a fait en seulement 11 rencontres. Je pense que c'est une belle histoire. Puis quand, à chaque fois que son nom est évoqué dans les articles, quoi que ce soit... On peut lire dans les commentaires des lecteurs à quel point ce gars-là, les gens ont envie de prendre pour lui, puis ils se reconnaissent. Tu sais, on reconnaît l'énergie d'un joueur de hockey du Canadien de Montréal là, comme les gens les aiment. Mais est-ce que tout ça, cette belle histoire, c'est évidemment, le rythme de 7 buts en 11 matchs est intenable pour n'importe quel joueur.
En fait, c'est même meilleur que ça. C'est 7 buts en 9 matchs, parce qu'il n'a pas marqué ses deux premiers
matchs. Dans ses deux premiers, exact.
Alors, c'est 7 buts à ses 9 derniers matchs.
Mais est-ce que, tu sais, là, en ce moment, j'entends dans les émissions de fin de soirée, ah ben là, il est en train de faire sa place de manière régulière. Est-ce que tu en as vu suffisamment jusqu'à maintenant pour être convaincu que ce gars-là peut maintenir sa place, même si, techniquement, là, même si on ramenait tous les joueurs blessés dans la formation?
Ben... Avec l'équipe actuelle, peut-être pas, mais pour l'équipe l'année prochaine, peut-être, parce qu'on s'entend qu'il va y avoir de la place qui se libère au niveau de la Ligue nationale à l'aile, tu sais. Jonathan Drouin ne serait pas là. Evgeny Dadonov ne serait pas là. Y a un paquet de joueurs qui vont, tu sais, on ne sait pas même avec les échanges et toutes les autres choses, comment... Mais je pense que ce qu'il est en train de faire, c'est de faire penser au moins Ken Hughes et Jeff Gorton dans leur planification, de dire, OK, ben peut-être que... peut-être qu'on devrait garder une place pour lui. Tu sais, c'est comme... Honnêtement, entre lui et Yassi Ilonen, je dirais que c'est beaucoup plus convaincant au niveau de Raphaël Harvey-Pinard. Puis c'est pas juste les buts, honnêtement. Les buts vont pas continuer comme ça. Mais c'est la façon dont les buts sont créés. Tu sais, hier soir, je me rappelle, il y avait une séquence en troisième période où il a reçu une rondelle en zone neutre, puis rapidement, avec un revers, l'a donné à Nick Suzuki qui arrivait comme en pleine vitesse. Là. Il l'a fait tout de suite. Et il n'a pas pensé, il savait que Suzuki était là, puis il a pris la bonne décision avec la rondelle. Et je trouve qu'il fait ça quand même assez souvent. Plus que les buts, c'est sa prise de décision, c'est où il devrait se placer sur la glace, où la rondelle va être, au lieu de où il est en ce moment. Tu sais, il complète ses coéquipiers, il complète ses compagnons trio très bien. Et ça, c'est quelque chose duquel on a discuté déjà, qui a l'air d'un gars qui est juste capable de jouer avec des bons joueurs. Ou en fait, on a écrit dans notre calepin à un moment donné un truc comme ça, tu sais, c'est parce que, tu sais, il y avait Zach Hyman qui est là à Edmonton, qui n'est pas le même joueur, mais il a ce même qualité-là. Alex Burrows, derrière le banc du Canadien, avait ce même qualité-là. Il y a des joueurs qui sont peut-être pas le plus talentueux, mais juste démontrent une capacité à compléter des meilleurs joueurs. Ce qui fait en sorte qu'ils sont des joueurs, des bons joueurs eux-mêmes. Tu sais, c'est même si c'est pas au niveau de talent, mais juste ces capacités-là. Je sais pas si Raphaël Harvey-Pinard est ce gars-là, mais à chaque fois, tu sais, ça fait deux fois qu'il a été rappelé à Montréal, puis le fait de jouer avec des joueurs, même si c'est pas Nick Suzuki, même si c'est pas les meilleurs joueurs du Canadien, mais juste les joueurs du niveau de la Ligue nationale, le fait bien paraître. Mieux paraître qu'à Laval. Alors, des fois, il y a juste des gars comme ça. Puis, c'est un peu trop tôt pour le dire que si ce gars-là, c'était un gars comme ça, mais le Canadien a beaucoup de matchs, ils ont presque deux mois pour faire cette évaluation-là avec ce gars-là, parce que, évidemment, ce qu'on a vu à date est très intéressant. Puis ça vaut la peine de voir si, avec un plus grand échantillon, il est capable de maintenir, pas ce rythme, mais cette façon de jouer-là. Qui a démontré depuis qu'il a été mis sur le trio de Suzuki, en fait.
Oui, puis ce qui est intéressant en plus, c'est qu'il est utilisé en avantage numérique, puis il est efficace dans ce rôle-là aussi. T'sais, c'est un gars qui a... je ne sais pas à quel point on peut tracer une ligne directe ou une corrélation claire entre les deux facteurs, mais il s'est mis à jouer en avantage numérique. L'avantage numérique du Canadien fonctionne beaucoup mieux depuis environ deux semaines. Et puis... dans son rôle, lui, en jouant devant le filet, en étant un gars, tu n'as pas besoin d'être le plus gros joueur pour être efficace devant le filet. C'est bien beau de vouloir bloquer la vue du gardien, oui, je comprends, mais c'est aussi d'être capable de bien lire les moments où la direction des lancers, les choix de passe, de pouvoir bien placer son bâton, pouvoir rapidement sauter sur les retours, puis être juste un facteur dérangeant. Et à cet égard-là, je trouve que Harvey Pinard fait quand même du très bon travail, puis il est là pour sauter sur les retours de lancer. L'autre jour, il a été... hier, ça a été sur une passe qui venait de la ligne des buts de Mike Hoffman. Précédemment, il a reçu une belle passe de Nick Suzuki. Quoique, je ne suis pas sûr si c'est le but auquel je pense qu'il a marqué était en avantage numérique ou non, mais je pense que oui. Mais il semble un gars qui, malgré un physique qui est peu avantageux, tu sais, quand on entendait parler des nombreux parallèles avec Brendan Gallagher, je pense qu'il y a de ça aussi, non seulement par la hargne de son jeu en général, mais le fait que il a tellement pas peur, lui non plus, de foncer au filet. Et quand il est campé devant le gardien, il reste là. Puis il est prêt à manger les coups.
Oui, puis juste pour démontrer un peu la chose que je parlais tantôt, là, c'est... tu sais, il y a déjà deux buts en avantage numérique avec le Canadien cette saison. Puis à Laval, il y en a trois. il y en a 3 en 37 matchs. 15 buts en 37 matchs, ce qui est quand même un bon rendement, mais c'est pas comme ce qu'on a vu ici. Puis 3 buts en avantage numérique en 37 matchs à Laval, 2 buts en avantage numérique à 11 matchs à Montréal, puis en fait, c'est peut-être la moitié de ces matchs-là où il jouait sur la première unité. Alors, c'est quand même intéressant. Je pense qu'il y a une certaine, tu sais, il faut avoir une certaine réticence de trop s'emballer, ce qui est tout à fait normal, parce que il n'y a rien, quand tu le regardes jouer, il n'y a rien en lui qui dit « Ah, ça c'est un talent de la Ligue nationale » ou « Il y a un coup de patin de la Ligue nationale » ou « Il y a un tir de la Ligue nationale ». Tout ce qu'il y a, c'est l'attitude d'un joueur de la Ligue nationale. Tout ce qu'il y a, c'est cette motivation, cette détermination-là. Et, tu sais, à un moment donné, un joueur qui a beaucoup de détermination puis pas beaucoup d'autres choses, les choses, tu sais, commencent à se rattraper un peu. Mais je trouve que, comme j'ai dit tantôt, qu'il y a une certaine intelligence de la Ligue nationale, un sens de hockey qui est quand même... qui a l'air d'être quand même assez haut. Alors, c'est ça. Moi, je ne suis pas prêt à dire que ce gars-là va être un attaquant top 9 du Canadien l'année prochaine ou dans les années à venir. Ce que je suis prêt à dire, c'est que selon ce qu'on a vu à date, il devrait continuer à jouer dans ce rôle-là jusqu'à la fin de la saison pour voir s'il peut continuer à ce rythme-là. Puis s'il est capable, d'ici la fin de la saison, disons qu'il joue avec Nick Suzuki le reste de la saison. S'il est capable de maintenir un certain rythme, évidemment pas 7 buts en 9 matchs, là, mais un certain rythme, là, il faut y penser. Parce que là, il serait rendu à quoi? Une trentaine de matchs rendu à la fin de la saison? Même 40, presque? Alors,
ouais, c'est ça.
35, c'est ça, c'est un échantillon qui est quand même intéressant. Un échantillon avec lequel tu peux commencer à faire des vraies évaluations. Alors, c'est comme beaucoup de joueurs cette saison. Tu sais, Samuel Montembeau, on en a déjà parlé beaucoup. Tu sais, il doit y donner des matchs pour savoir si ce qu'on a vu cette saison, c'est vraiment ça. Et déjà, on commence à voir, tu sais, de temps en temps, il y a une tendance à donner un mauvais but, comme il faisait l'année passée. Ça commence à rentrer dans son jeu le plus qu'il joue maintenant. Mais c'est ça la beauté de la situation du Canadien, c'est qu'il peut faire ses évaluations, il peut donner ce temps de glace-là à des gars comme Harvey Pinard ou comme n'importe qui pour voir. Effectivement, Justin Barron, c'est un autre qui devrait avoir beaucoup de minutes d'ici la fin de la saison, puis tant mieux, ils vont voir qu'est-ce qu'ils ont en ce jeune homme-là. Alors, c'est ça, on verra, mais à date, c'est plus que juste les buts pour Raphaël Harvey-Pinard, à mon avis.
Quand tu parles d'une attitude de la Ligue nationale ou d'un comportement de la Ligue nationale, je me dis, OK, ce gars-là, il arrive de la Ligue américaine, un espoir de catégorie B d'une certaine manière, puis on le place après quelques matchs sur le premier trio avec le capitaine de l'équipe. Est-ce que... Oui, il y a certainement une part de mérite chez lui, mais je ne peux pas m'empêcher de voir aussi que Martin Saint-Louis envoie un message à d'autres joueurs en disant « Vous avez peut-être des habiletés naturelles qui sont supérieures à celles de ce petit kid-là, mais si vous aviez autant de cœur au ventre que lui, c'est probablement vous qui seriez à sa place et qui auriez votre audition à côté de Nick Suzuki. » Est-ce que dans le fond, Harvey Pinard non seulement est en train de saisir sa chance, mais aussi... Sa propre façon d'être, sa propre façon de jouer, force aussi certains gars autour à se regarder dans le miroir puis à se dire ben, pourquoi lui puis pas moi? Puis probablement de se dire ben, probablement parce que lui, ce kid-là se donne corps et âme, puis peut-être qu'à ce niveau-là, moi je pourrais en donner plus. Penses-tu qu'il n'y a pas un. Il n'y a pas cet effet-là qui est cherché à quelque part?
Ben, peut-être, mais je trouve que l'effet, c'est plutôt que de dire... tu sais, quand tu es un vétéran de la Ligue nationale, tu es déjà écarté des séries, tu as peut-être l'impression que tu n'as pas grand-chose, tu sais, tu n'as pas beaucoup de motivation pour jouer les matchs. Alors là, tu vois un gars comme Stitt, puis je pense que, tu sais, Jonathan Drouin l'autre soir, quand il a mentionné après son match de 3 passes contre les Blackhawks, qui dit que... qui demandait une question concernant la date limite des échanges, puis il dit « Oui, c'est à moi de démontrer aux autres équipes s'ils veulent aller me chercher avant le 3 mars ou s'ils veulent aller me chercher plus tard, que je suis un gars qui est capable de jouer pour une autre équipe qui, puis que je suis prêt à le faire. T'sais, ça, c'est un gars qui comprend sa réalité. Mais sa réalité fait en sorte que Jonathan Drouin a une motivation très claire, même si la saison est perdue, d'aller performer. Est-ce que tous les gars ont cette même motivation-là? Peut-être que non. Peut-être des gars avec des plus longs contrats. Peut-être des gars avec qui sont plus confortables dans leur rôle ou dans leur contrat. Un gars comme Harvey Pinard qui vient faire ça, je suis comme, ah oui, OK. Il va falloir, même avec mon contrat, même avec ça, il faut que je démontre quelque chose parce que des gars comme ça peuvent venir voler mon poste. Alors, il y a cet aspect-là aussi qui démontre qu'il y a beaucoup de raisons de jouer en ce moment. Le Canadien a beaucoup d'évaluations à faire. Ils ont beaucoup de décisions à prendre. L'équipe va changer beaucoup au cours des deux prochaines années. Si tu veux faire partie de ce groupe-là, si tu veux faire partie de ce reconstruction-là, il faut le démontrer tout de suite. Parce que à chaque jour, ils sont en train de faire des idées sur des joueurs. Puis alors, tant mieux pour Raphaël Harvey-Pinard, mais tu sais, c'est comme un gars comme Rem Pitlick, par exemple.
Mm-hmm.
Quelle idée est-ce que le management fait de lui? T'sais? On sait que Martin l'aime, mais en fin de compte, c'est pas la décision de Martin s'il joue, s'il est à Montréal ou non. Là. Alors, c'est des gars comme ça.
Armia.
C'est plein de gars. Armia, c'est ça, la même affaire. T'sais, c'est comme si tu cherches un petit once de motivation, voir Harvey Pinard être promu au premier trio et avoir du succès là, et être en train de se bâtir quelque chose pendant ces matchs qui veulent rien dire, ça devrait inspirer d'autres gars à peut-être faire la même chose.
Ouais. Écoute, tu as mentionné le nom de Jonathan Drouin, puis on a pris l'habitude dans les derniers épisodes du Super Athlétique de faire un peu un tour d'horizon de prendre une facette de la date limite des transactions qui s'en vient, puis l'adapter au Canadien de Montréal en regardant le cas de différents joueurs. Puis je me disais, ce serait intéressant aujourd'hui qu'on s'attarde à ceux qui ont sous-performé cette année et qui le Canadien espérait probablement pouvoir générer un retour en début de saison et qui se retrouvent en position où la possibilité d'échanger ces joueurs-là ou d'aller chercher quelque chose de valable est vraiment mince. Puis Drouin est clairement un de ces gars-là. Je pense qu'on peut parler également de Dadonov, puis dans une moindre mesure peut-être de Hoffman. Mais si on se lançait sur le cas de Drouin pour commencer, qui a été quand même sur une belle séquence là, dans les dernières semaines, il a été, c'est un des passeurs les plus productifs du Canadien, sinon de la Ligue, dans les deux, trois dernières semaines. Quoique, en fait, je dois calculer dans les matchs que lui a joué, parce qu'il a quand même raté beaucoup d'activités. Là. Mais c'était quoi, là? Il est rendu à 10 passes en 12 matchs, quelque chose comme ça.
C'est 11 passes en 10 matchs.
C'était 11 passes en 10 matchs. Ouais, c'est ça. Ouais, Avant
la rencontre d'hier. Alors, 11 passes en 11 matchs depuis le 1er janvier.
Ouais.
Ouais. Toujours pas de but.
Toujours pas de but. Non, c'est ça. Ça, c'est
1er janvier 2022, si je ne me trompe pas.
Ça fait. Oui, parce que celui qui avait marqué, on le lui a ôté.
Ouais.
Alors, écoute, je sais qu'on peut regarder ça. On peut regarder ça et dire que ce serait le fun que cette récente production-là fasse en sorte que ça éveille l'intérêt des autres équipes qui se disent « Ah tiens, probablement que Jonathan Drouin est en train de sortir de sa coquille, etc. » Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Moi, je crains que malgré le récent sursaut, les autres équipes regardent cette situation-là et se disent « Ben, on a déjà vu ce film-là. » Puis, c'est pas une situation qui devrait perdurer trop longtemps, puis ça sert pas grand-chose pour nous d'aller chercher Jonathan Drouin. Est-ce que penses-tu que je me trompe? Et si je me trompe pas, qu'est-ce que ça va prendre pour que les équipes changent d'idée alors qu'il reste moins de 3 semaines à la date limite des transactions?
Ben, je pense que... Mais une façon dont tu te trompes pas, c'est que à date de la semaine passée, j'ai entendu dire que le Canadien avait zéro intérêt. Il y avait zéro marché d'échange pour Jonathan Drouin jusqu'à, je dirais, ben même plus tôt cette semaine. J'avais fait des vérifications, puis ça a l'air que non seulement qu'il y a des équipes qui appellent pas, mais même quand le Canadien appelle, c'est comme un non merci. C'est comme c'est. Alors, mais il faut le dire que, et c'est le cas d'Adonov, il y a des bonnes chances qu'il déménage parce que c'est non seulement qu'il joue mieux maintenant, mais il y a une feuille de route qui est quand même intéressante. J'ai regardé pendant les 5 dernières années, en moyenne, c'est 26 buts par 82 matchs. Là, c'est quelque chose comme ça. C'est quand même un gars qui a été très productif, peu importe où il a joué. C'est comme à Ottawa, à Vegas même après tout le désastre de son échange à Anaheim, qu'il fallait qu'il challenge, puis qui finalement a été rejeté par la Ligue parce que Anaheim était sur son liste de non-échange. Il est quand même revenu à Vegas, et Vegas était dans une lutte pour faire les séries, puis il a produit à quasiment un point par match jusqu'à la fin de la saison. Alors, cet aspect-là de ce gars-là, puis le fait qu'il ait démontré qu'il est capable de jouer avec des très bons joueurs, puis les compléter très bien, un peu comme on parlait de Raphaël Harvey-Pinard, Dadonov est un peu, pas de la même façon, mais c'est un peu un gars comme ça. Tu sais, je pense que si tu parles à Barkov puis à Huberdeau, ils vont dire que c'est un gars qui les a aidés beaucoup. Quand c'était un des meilleurs trios de la Ligue, c'est pas comme juste... Il était pas juste là. Il faisait partie de ce trio-là, puis il faisait partie de la raison pourquoi ils étaient tellement efficaces. J'entends Drouin à pas ce feuille de route-là.
Non.
Tu sais, il y a du monde qui dit que c'est un bon joueur en série, mais ça fait des années qu'il était un bon joueur des séries avec Tampa quand il était une recrue ou un gars de deuxième année. Il était très jeune. Depuis ce temps-là, écoute, il a joué bien dans la bulle avec les Canadiens. Il a raté la dernière fois que les Canadiens a fait les séries, malheureusement, avec ses problèmes de santé mentale, avec toute l'anxiété qu'il était en train d'essayer de régler, puis tant mieux pour lui, mais il a raté cette opportunité-là d'utiliser cette vitrine-là pour démontrer comment il est capable de jouer en série. Il était pas pire dans la bulle l'année d'avant, mais tu peux pas dire avec confiance... En fait, c'est le même cas pour Dadonov, mais tu ne peux pas dire avec confiance que Jonathan Drouin, c'est un gars de série. Mais c'est juste parce qu'il a bien joué en série éliminatoire avec les Mooseheads de Halifax ou très tôt dans sa carrière avec une équipe à Tampa Bay qui était comme complètement loadée en avant. Alors, c'est difficile de regarder la façon dont Jonathan Drouin a joué cette saison, même s'il joue du très bon hockey. Là. Honnêtement, j'espère que le monde ne prend pas ça comme une critique de Jonathan Drouin, la façon qu'il joue en ce moment. Je trouve qu'il joue... du très bon hockey, puis si c'était pas pour les blessures cette saison, je trouve que plus souvent que non, cette saison, il a joué du très bon hockey. Il a joué du hockey engagé, il était, tu sais, puis il a toujours pas de but. Et malheureusement pour lui, il est devenu comme un peu le joke de l'équipe. Là. Parmi les partisans, ça a l'air, là, c'est un gars qui est critiqué tout le temps. Il est devenu Scott Gomez de l'équipe, tu sais, c'est un peu ça. Mais
en fait, il pourra jamais rien faire qui va. Tu sais, pour bien des partisans, Il y a comme une ligne qui a été franchie, un point de non-retour, où peu importe ce que fait Drouin, il ne reviendra jamais dans les bonnes grâces de ces gens-là.
Non. Parce que, honnêtement, quand tu regardes tout le temps que j'entends Drouin, écoute, il y a sa part de responsabilité là-dedans, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de blanc pour cette situation-là, mais quand une équipe va te chercher, te signe un contrat à long terme, puis la première chose qu'il fait, c'est de te mettre au centre. C'est pas la meilleure chose. C'est là, après, il est pas centre. Puis après, il se blesse. Puis il essaie de revenir. Puis il se blesse encore. Puis il y a tous ces épisodes de santé mentale. T'sais, c'est quand même une chose après une autre qui est venue... T'sais, parce que quand il s'est blessé à Washington, là, après la grosse mise en échec d'Alex Ovechkin, il commençait à montrer quelle sorte de joueur il pourrait être. Et c'était vraiment, tu sais, il était quand même, c'est quoi, c'était en mois de novembre cette saison-là, mais honnêtement, exact. Il avait quasiment le quart de la saison et il était quand même assez constant. Puis ça, c'était l'année, tu te rappelles, il a passé l'été avec Dominique Ducharme, regarder, faire des ajustements, va chercher la rondelle. Il en a parlé beaucoup de comment il voulait changer la façon de jouer, sa façon de jouer. Puis il le faisait, on le voyait, c'était pas juste des mots, là, on le voyait sur la glace. Il était productif. Il avait de l'énergie, il était engagé, il gagnait des rondelles, il faisait toutes les choses qu'il ne faisait pas auparavant. Alors, c'est comme quelque chose a cliqué dans sa tête, mais une fois que cette chose a cliqué dans sa tête, il s'est mis à se blesser tout le temps. Alors, écoute, moi, je trouve que s'il continue à ce rythme-là, pendant les prochains 5-6 matchs, rendu le 3 mars. Peut-être s'il y a une équipe qui voulait avoir de l'aide offensivement, qui n'a pas été capable d'aller chercher ce qu'il voulait, puis tu peux avoir Jonathan Drouin à moitié prix pour quoi, choix de 5e ronde, peut-être 4. Tu dis « why not? » Tu dis « OK, on va essayer, on verra. » Ça va pas nous nuire nécessairement. Écoute, s'il n'est pas bon, on ne joue pas. That's it. Mais s'il est bon, ça pourrait donner quelque chose. T'sais. Je pense honnêtement, si j'étais l'Avalanche de la Colorado, puis évidemment, si je me rends en série, ils sont quand même dans une lutte en ce moment, je me dirais, OK, ben, si jamais il y a une blessure sur le premier trio, peut-être qu'on pourrait essayer de mettre Jonathan avec Nate McKinnon pour voir ce que ça donne. T'sais. Mm-hmm. Puis sinon, c'est pas le fin du monde non plus. La seule chose, c'est qu'il y a beaucoup d'argent. Même à moitié prix, il y a tellement pas d'argent dans le système que ça prendrait une autre chose pour la plupart des équipes à aller chercher. Et je sais pas si le Canadien ni l'autre équipe est très motivé de faire cette autre chose-là qui serait nécessaire.
Moi, ce qui me chicote, par exemple, c'est parce qu'évidemment, les équipes vont chercher des joueurs de location en vue des séries éliminatoires, évidemment. Et si un gars comme Drouin, puis je pense que ça s'applique également à Dadonov, si des gars comme ça n'ont pas un impact immédiat au sein de leur nouvelle équipe, puis se retrouvent un petit peu sur les marges, comme ils le sont avec les Canadiens depuis le début de cette saison, puis dans le cas de Drouin, ça date d'avant ça. Si ces gars-là se ramassent sur un quatrième trio, en séries éliminatoires, c'est très rare que les quatrièmes trios sont formés de joueurs de ce type-là. C'est-à-dire qu'on va chercher à construire un quatrième trio qui est beaucoup plus basé en fonction de missions très, très spécifiques, que ce soit au plan défensif, que ce soit au niveau du gabarit. D'avoir, tu sais, rappelle-toi, le parcours du Canadien en séries éliminatoires il y a 2 ans, où le quatrième trio avec Staal, Armia et Perry, c'était une équipe c'était un trio de cycling. On utilisait notre gabarit, nos capacités de possession de rondelles pour passer un maximum de temps en zone adverse, à fatiguer l'adversaire. On ne marquait pas, mais au moins c'était du temps passé dans l'autre zone qui reposait nos défenseurs, qui reposait notre gardien, qui épuisait l'adversaire. Et puis, de cette manière-là, ben, ça faisait en sorte que les autres trios, après ça, pouvaient sauter dans la mêlée puis être dans des positions plus favorables. Alors, Drouin et Dadonov ne peuvent pas vraiment contribuer sur des trios de ce type-là pour une équipe qui aspire à une place en série. Donc, il faut vraiment qu'ils viennent combler un besoin, que ce soit remplacer un joueur qui a été blessé ou quoi que ce soit, mais il faut qu'ils puissent avoir, de par leur qualité offensive, une utilité qui va convaincre rapidement leur nouvelle équipe qui vont pouvoir s'insérer. Parce que tu regardes même, il y a quelques années, pour reprendre l'exemple d'un autre ancien Canadien, Tomáš Tatar, les Golden Knights de Vegas avaient donné un choix de première ronde, deuxième et troisième pour aller le chercher. Il n'avait pas réussi à trouver sa place au sein des Golden Knights. Il n'a pas été là longtemps, on le sait bien. Mais en fin de compte, parce qu'il n'avait pas justement le profil d'un gars qui pouvait s'insérer sur un quatrième trio, il y a plusieurs matchs de séries éliminatoires, il ne les a carrément pas joués. Alors, je me dis, au milieu, justement, dans un contexte où chaque équipe n'a pas beaucoup d'argent à dépenser, est-ce qu'on va se tourner vers ces profils de joueurs-là pour pouvoir combler leurs trous, leur manque ou leurs besoins? Je ne sais pas, mais au moins, dans le cas de Drouin, ce qui est l'avantage par rapport à Dadonov, je comprends ton argument de la feuille de route de Dadonov, puis j'y souscris tout à fait. Dans le cas de Drouin, cette année, il a quand même montré qu'il pouvait dépanner comme joueur de centre. Puis ça, je pense que c'est quand même un élément intéressant, une carte qu'il a dans sa manche. T'sais. Une équipe qui se dit, ah tiens, t'sais, il manque d'ailier capable de dépanner au centre si besoin est. Ben ça, c'est le fun, parce que Drouin, lui, il peut venir te donner un coup de main et il n'aura pas l'air fou. Alors ça, je pense que ça peut militer en sa faveur.
Oui, non, c'est un bon point. C'est juste que... Puis Mike Hoffman est un peu dans le même bateau, mais Mike Hoffman a l'avantage que il fait une chose très, très bien. Au moins, il l'a fait pendant longtemps avant d'arriver à Montréal, mais je pense qu'il y a plein des équipes qui peuvent dire « Bon, Montréal, c'est ça qui arrive à Montréal. C'est juste pas capable. Un gars qui était capable, qui était un des meilleurs marqueurs de but en avantage numérique, arrive à Montréal puis devient un des pires marqueurs. Mais Mike Hoffman, à part ça, te donne pas grand-chose. Tu sais, c'est des empty calories. Tu sais, c'est comme c'est un gars qui marque des buts, mais... Et honnêtement, tu sais, tu te rappelles... c'est quoi les Flames de Calgary quand il y avait Brett Hull, il dit « Ah, tout ce qu'il fait, c'est de marquer des buts, c'est de marquer des buts. » Alors, ça peut sembler, tu sais, ça peut avoir l'air un peu fou de dire « Ah, ben, il fait, à part marquer des buts, il fait pas grand-chose. » Mais là, il marque pas beaucoup de buts, mais il produit en ce moment. Puis la chose dans le cas de Hoffman, mais dans les yeux de bien des dépisteurs auxquels j'ai parlé de ça, là, c'est... Drouin et Hoffman sont dans le même bateau où c'est comme s'il ne produit pas offensivement, il ne te donne rien. Puis vu que produire offensivement devient plus difficile en série, il y a une forte chance qu'ils vont effectivement te donner rien. Alors, tu sais, si tu veux au moins avoir une autre dimension que tu peux ajouter, une dimension défensive, une dimension physique, quelque chose pour aider la cause de l'équipe. Et ces deux gars-là, en fait, tu peux même faire l'argument, peut-être ces trois gars-là, s'ils ne produisent pas offensivement, ils ne te donnent pas grand-chose. Mais on parle, on s'entend là-dessus que quand on parle de ces gars-là, ça ne prendra pas grand-chose pour les avoir. T'sais. Le prix est zéro, quasiment. Ouais. C'est vraiment des... C'est best case, c'est un choix de quatrième rang dans chacun des cas. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Hoffman, c'est que, en tout cas, selon ce que j'ai pu comprendre de la situation, tu sais, le Canadien ne serait pas vraiment ouvert à l'idée de garder de l'argent dans un échange de Josh Anderson, de garder de l'argent même dans un échange de Joel Edmondson ou de David Savard. Garder de l'argent pour l'année prochaine, c'est quelque chose qui ne les intéresse pas vraiment. Mais dans le cas de Hoffman, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qu'ils seraient willing de faire. C'est vraiment, s'ils sont capables... effectivement, de libérer de l'espace sous le plafond, même en gardant la moitié de son salaire, ça veut dire que l'autre moitié, il l'épargne. Je pense qu'il le ferait, mais je ne suis pas convaincu qu'ils vont être capables de trouver une équipe. Sauf si Hoffman continue à produire, mais il se met à marquer des buts en avantage numérique à profusion. Sans ça, j'ai de la misère à voir comment lui et Drouin partirait avant le 3 mars, mais je pense que Dadonov a une bonne chance. Je pense qu'il y a une équipe quelque part qui va le prendre, juste parce que c'est pas nécessairement qu'il y ait ces autres dimensions-là, mais je pense le fait qu'il ait été bon coéquipier cette saison, la façon dont il a géré la situation à Vegas en revenant, en performant dans ces circonstances-là, je pense qu'il y a une certaine assurance que si tu ajoutes ce gars-là, il va pas complètement nuire à ta chambre. C'est comme ça. Ça, je pense que c'est pas mal connu autour de la Ligue. C'est pas vraiment quelqu'un qui va venir tuer la chimie que tu as pu bâtir pendant toute la saison. C'est pas ce gars-là. C'est un gars qui va gagner, il donne son plein effort. Ça fonctionne pas toujours, mais selon tous les témoignages qu'on a entendus, c'est un bon coéquipier en général.
Mais je veux revenir à Hoffman. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait que le Canadien pourrait retenir de l'argent. C'est pas vrai. C'est pas du tout... dans l'optique de ce que Kent Hughes souhaitait faire. Donc, ce serait vraiment une exception qui serait faite pour Hoffman.
Oui, mais écoute, je connais pas la motivation pour ça. Je pense qu'on peut spéculer sur le fait que peut-être il aimerait s'enlever de Mike Hoffman un peu plus que les autres joueurs. En fait, ce serait pas une grosse spéculation de dire que tu sais, le Canadien veut pas nécessairement échanger Josh Anderson ou Joel Edmondson ou David Savard. Tu sais, il faut que le prix soit quelque chose qui est difficile à refuser. Dans le cas d'Hoffman, je pense qu'il y a une motivation quand même assez. Ben, c'est plus. Seront plus. Je sais pas la bonne façon de le dire. C'est pas qu'il veut juste se débarrasser de lui, mais c'est un gars qui est pas dans les plans. C'est un gars qui aide pas la culture qu'ils sont en train de bâtir. C'est comme tous les autres gars, de leur propre façon, aident cette culture-là. Et aident les jeunes de leur propre façon. T'sais, Anderson, c'est pas le même qu'Edmondson, c'est pas le même que Savard. Je suis pas convaincu que le Canadien voit ce que Hoffman donne à ce niveau-là. T'sais, alors, s'il marque pas des buts, C'est pas un gars qui aide les jeunes à devenir des bons pros, là, par exemple. C'est juste mon opinion, là, mais s'ils font exception pour Mike Hoffman, je pense que c'est pour ça.
Mais ce qui est, en tout cas, tu mentionnais, à tout le moins dans la ligue, les gens savent qu'il y a une chose qu'il est capable de faire, c'est de marquer des buts en avantage numérique. Entre sa deuxième année dans la ligue, donc en 2015, et le moment où il est arrivé à Montréal, donc de 2015-2016 à 2020-2021, il est arrivé au cinquième rang des marqueurs de la Ligue nationale en avantage numérique. Puis devant lui, il y a Ovechkin, Stamkos, Draisaitl puis Pasternak. Donc, il a une historique, il a vraiment une feuille de route d'un gars qui arrive puis qui aide ton avantage numérique.
Puis, il peut encore tout tirer la rondelle. T'sais, honnêtement, son tir est dangereux. Oh oui. Là. Tu peux pas le nuire. Ouais. Alors, ça, il l'a pas perdu. Puis, il faut juste... Il a besoin de quelqu'un pour lui donner la rondelle à un bon spot, puis il va le mettre dans le filet. Là. C'est juste qu'avec Montréal, il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu quelqu'un à lui donner la rondelle dans un endroit où il est capable de terminer le jeu. Là. Alors, si tu es convaincu que toi, tu es une équipe qui pourrait lui fournir ça cette saison et la saison prochaine à 2,25 millions par année, peut-être tu décides de tenter ta chance, là, puis d'ajouter une arme qui est quand même, comme tu viens de mentionner, qui a été une des meilleures armes en avantage numérique de la Ligue pendant longtemps. Mais c'est un risque. C'est honnêtement... 2,25 millions, ça reste 2,25 millions pour un gars qui donne pas grand-chose d'autre, là, à part ça.
À part ça, non, c'est ça. Mais là, quand tu regardes aussi les équipes qui ont de la misère en avantage numérique, celle qui pourrait le plus avoir besoin d'un gars comme lui, c'est étonnant de faire le parallèle entre la puissance des avantages numériques et puis la force des équipes en saison régulière, parce que dans le dernier tiers de la ligue, toutes les équipes les plus faibles de la ligue sur l'attaque à 5, en ce moment, là, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, ne participent pas aux séries. L'équipe la plus faible en supériorité numérique qui est dans une position de participer aux séries, c'est les Hurricanes de la Caroline, sont 22e de la Ligue. Mais après eux, puis ils frôlent le 20% d'efficacité, ce qui est quand même pas si mauvais, là, à 19,9. Mais après ça, c'est toutes des équipes qui, pour l'instant, sont à l'extérieur du portrait des séries. Donc, tu sais, est-ce que Calgary, est-ce que les Islanders, c'est des équipes qui sont quand même encore dans le coup, puis qui se disent, ben, peut-être que nous, on pourrait donner une injection.
Les Islanders seraient intéressants. Honnêtement, ça, c'est une équipe qui a besoin d'un gars, pas comme Hoffman, mais ils ont besoin de finition, là, ça, c'est clair.
T'sais, ils ont déjà ajouté Bo Horvat, qui est un des gars les plus dangereux dans la position de bumper. Je pense qu'il va certainement les aider. Barzal, c'est un gars qui garde la rondelle beaucoup sur son bâton. Il la manipule pendant une éternité. Il cherche des ouvertures, etc. Il tricote beaucoup. Mais c'est pas non plus celui qui est là. C'est pas une dégaine. C'est pas un gars qui est là pour son release d'abord et avant tout. Moi, ça m'apparaît justement, si on regarde strictement l'utilité d'un joueur comme Hoffman au sein d'un avantage numérique, les Islanders de New York m'apparaissent comme une équipe qui pourrait vraiment utiliser ses services. Sauf que là, à l'heure où on se parle, ben écoute, ils sont pas loin, ils sont à un point d'une place en série, ils sont à un point d'égaler le rendement des Capitals de Washington.
Mais ils ont joué beaucoup de matchs. Ça, c'est le problème.
Ils en ont joué autant que les Capitals.
Ouais, mais regarde juste en dessous des autres, là. Juste en dessous des autres, t'as le Floride, t'as Buffalo. Les deux équipes ont 3-4 matchs en main sur eux autres. Là, c'est vraiment, leur situation est quand même assez précaire. Oui, ils ont pris des points, mais ils ont joué beaucoup de matchs. Et c'est ça. Il va falloir qu'ils commencent à remporter des matchs, là, parce qu'honnêtement, en ce moment... Floride. En fait, c'est pas Floride, c'est surtout Détroit et Buffalo que je veux dire. Ouais. C'est les deux équipes qui sont juste là. Et même Ottawa se rapproche de ce groupe-là. Là, mais Buffalo et Détroit sont deux équipes qui doivent faire peur à ce groupe-là des Islanders, des Panthers, des Capitals. Juste à cause... Parce qu'en termes de pourcentage de points en ce moment, Détroit et les Sabres ont des meilleurs rendements que Washington, Floride et les Islanders.
Oui.
Alors,
ouais, effectivement.
C'est quelque chose qu'il va falloir que ces équipes regardent parce que leur marge de manœuvre est beaucoup moins mince que la marge de Détroit et de Buffalo. Et Détroit est en feu, ils ont gagné 5 matchs de suite. Là. Alors, c'est
comme... Absolument. Puis ouais. Je pense, puis dans le lot, moi, les Sabres m'apparaissent vraiment comme une équipe dangereuse. C'est Brian Burke qui disait que dans la... quand tu regardes les statistiques, la plus importante, c'est le différentiel de but. Là. Puis quand vous allez sur le site de la Ligue nationale, ben, tu as les équipes en vert puis les équipes en rouge. Ben, Buffalo, qui sont à plus 12, c'est intéressant. Ça c'est le signe d'une équipe qui fait les choses correctement puis qui, à un moment donné, pourrait se retrouver à être avantagée là, dans, un peu plus tard. Peut-être qu'ils ne feront pas les séries, mais sauf qu'ils sont clairement dans la bonne direction. Mais ils ont déjà leur Mike Hoffman, eux autres, en Victor Olofsson.
Ouais. Et Tate Thompson de l'autre bord. Alors, c'est ça.
Oui.
Les autres sont corrects.
Ils sont corrects.
Je pense pas qu'ils ont besoin de Mike Hoffman. Mais oui, effectivement, Olofsson, c'est leur Hoffman. Mais c'est ça. C'est... Juste pour mettre le plus 12 en contexte, c'est les Pingouins qui vont super bien, ils jouent pour presque 600, sont à plus 8. Washington, c'est à plus 8. Floride, c'est à plus 2. Les Anders sont à plus 6. Les Détroit, c'était à moins 5. Alors, le plus 12, c'est pas rien. Là. C'est quand même impressionnant. C'est pas le plus 86 des Bruins, mais c'est quand même quelque chose.
Mais c'est pas 86. Le moins 92 des Ducks.
Non, c'est ça.
Écoute, Arpen, on va passer au, comme à chaque semaine, on invite nos auditeurs à nous soumettre des questions. Alors, merci beaucoup à tout le monde de prendre la peine de nous écrire à chaque semaine, puis de pas de nous écrire, mais de nous laisser un message sur notre boîte vocale, dis-je. Alors, les gens le font en appelant le 646-847-9404. Et puis, cette semaine, on a Louis-François qui nous a laissé ce message.
Oui, allô, Marc-Antoine et Arpen. Ici Louis-François Charpentier, fidèle auditeur de The Athletic, puis un lecteur. J'ai lu ton article, Marc-Antoine, sur le premier discours de Martin Saint-Louis, qui était quand même très intéressant. Ça m'a fait penser à l'impact qu'un leader sur une équipe comme le Canadien. Depuis que le Canadien a perdu en finale de la Coupe Stanley, ils ont perdu des leaders incontestés comme Price, qui avait une présence, comme Shea Weber, puis aussi comme Corey Perry, puis dans un moindre aspect aussi Ben Sherrod. Pensez-vous que la reconstruction serait aussi positive si on n'avait pas Martin Saint-Louis pour leader le groupe, un peu du fait que Suzuki devient un leader plus vocal grâce à Saint-Louis? Est-ce que la transition va se faire assez facilement ou faudra aller chercher peut-être un vétéran cet été durant la période des agents libres?
Alors, merci Louis-François. Intéressante question. On l'a un petit peu abrégé. Écoute, dans le cas de Martin Saint-Louis, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est à quel point, quand il est arrivé l'année dernière et que le Canadien n'avait pas de capitaine encore, non seulement il a assumé le rôle d'entraîneur-chef, mais il est devenu de facto là, le capitaine de cette équipe-là. Je le ressens moins cette année parce que c'était fait comme ça qu'il y a une transition qui soit faite vers Suzuki, vers un nouveau groupe de leaders. Mais à un moment donné où la saison dernière, tout le monde se relevait d'une espèce de chaos, tout le monde était sonné puis il s'agissait de se remettre sur ses pattes, ben, Martin Saint-Louis est arrivé puis il a instauré ce leadership-là qui, effectivement, la perte de joueurs que tu mentionnais, Price, Weber, Perry, il a été pour beaucoup. Mais je pense que le Canadien avait besoin d'une voix pour les calmer puis pour les recentrer. Martin Saint-Louis l'a amené. Et en ce sens-là, je pense que c'est une des meilleures raisons pour lesquelles Saint-Louis était le bon homme pour cette tâche-là puis pour participer à cette reconstruction-là. Maintenant, est-ce qu'il faut rajouter d'autres voix, d'autres voix de leader, de joueurs vétérans au sein de l'équipe la saison prochaine? Je pense que la priorité, ça va être d'abord de dire qu'est-ce qu'on fait avec les voix qui sont là, les vétérans qu'on considère, qu'on estime et qui, à nos yeux, jouent ce rôle-là déjà dans la chambre. On parle ici de Joel Edmondson. On parle de David Savard. On parle de Brendan Gallagher. On parle de Jake Allen. Principalement, ces quatre-là. Dans un an, combien d'entre eux vont être encore là? Est-ce que ça va être 2/4? 3/4? On ne sait pas. Sauf que c'est clair que le Canadien veut s'assurer d'avoir toujours certaines de ces voix-là qui sont là. Il faut que tu t'assures d'en avoir suffisamment. Mais je pense pas que le Canadien va juger nécessairement que ça va être une priorité pour eux d'aller en rajouter, à moins que dans les prochains jours, on voit certains de ces vétérans-là quitter. Alors, moi, c'est de la manière que je vois ça, parce qu'il y a la priorité va quand même demeurer sur qu'est-ce qui va rendre l'équipe meilleure à plus long terme. Et puis, le leadership, je pense qu'il est important, mais le message s'est assaini déjà. Si le Canadien a la chance d'ajouter un gars qui aura un gros impact, ce serait bien, mais écoute, peut-être que le retour de Brendan Gallagher, éventuellement, pourrait aider à ce niveau-là aussi. Là.
Puis, je pense que la raison pour laquelle le Canadien, en ce moment, est en train de considérer négocier un contrat avec Sean Monahan, même si c'est à court terme, un, peut-être deux ans, bien surtout, probablement plus un an, c'est à cause de ça. Il aime ce que Sean Monahan amène dans leur chambre. Il aime le fait que Sean Monahan est capable de jouer ce rôle de leader-là et avoir un vrai impact sur la glace. Parce que c'est bien beau avoir des vétérans, tu sais, c'est comme... Mais un vétéran qui joue un rôle un peu effacé, c'est pas le même qu'un vétéran qui joue comme un rôle important. Tu sais, alors, Sean Monahan a le potentiel de jouer comme quand même un rôle important sur l'équipe et avoir cette présence-là dans la chambre. Tandis que même avec Edmondson et Savard, tu sais, ils jouent des rôles importants, ils jouent beaucoup de minutes, mais c'est pas des gars vraiment d'impact nécessairement, c'est des défenseurs défensifs, c'est pas exactement la même chose. Alors, je pense que la seule raison que le Canadien considère la possibilité, je dis vraiment la possibilité, que s'ils sont pas capables d'aller chercher quelque chose d'intéressant pour Sean Monahan à cause de sa blessure, qu'ils considèrent négocier un contrat pour le garder ici une autre année pour essayer de réessayer l'année prochaine à date limite d'aller chercher quelque chose pour lui, c'est parce qu'il l'aime. Le Canadien aime ce gars-là. Il aime la façon qu'il joue, il aime la façon qu'il se comporte, il aime l'exemple qu'il donne aux jeunes, il aime... Tout le package est là avec lui. Alors, je pense que si c'était pas le cas, si c'était juste un gars qui est un bon joueur, mais qui n'amène pas grand-chose dans la chambre, le Canadien serait prêt à juste le laisser partir comme joueur autonome. Ou le laisser partir pour pas grand-chose à la date limite. Mais là, j'ai l'impression que le Canadien va pas juste le laisser aller pour rien. S'il n'y a pas une bonne offre, ils vont au moins tenter leur chance de le re-signer à court terme. Pour la raison que tu viens d'évoquer.
Mais tu as tout à fait raison quand tu dis que c'est bien beau qu'il soit un joueur vétéran. Tous les vétérans ne sont pas nécessairement des leaders ou des gars qui apportent, qui vont faire partager leur expérience. Il y en a qui ont beaucoup
de
millages.
On vient de parler de Mike Hoffman.
Fait que tu ne peux pas simplement regarder la colonne de dire, bon, ben là, c'est qui a plus que 32 ans qu'on peut attirer à Montréal parce qu'il va nous amener du leadership. Détrompez-vous, il y a certaines personnalités en particulier. Cela étant dit, il faut que tu regardes aussi la saison prochaine. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont avec le Rocket de Laval qui vont être prêts à graduer dans la Ligue nationale? On a commencé l'émission en parlant de Raphaël Harvey-Pinard. Si Raphaël Harvey-Pinard décroche une place parmi les 12 premiers attaquants la saison prochaine, bravo, mais si tu perds Drouin, Dadonov, si tu en échanges un autre, si tu te dis, ben, Belzile, c'est une belle histoire, mais en fin de compte, il n'est pas de calibre de la Ligue nationale, il va falloir qu'il y ait des joueurs qui challenge les postes actuels puis qui se trouvent une place au sein des quatre premiers trios. Est-ce que ça va être Emil Heinemann qui va venir? Mais il ne me semble pas y avoir énormément de jeunes attaquants qui vraiment cognent à la porte et qui disent, ils ne sont pas tout à fait prêts cette année, mais l'année prochaine, ils vont l'être. Ils ne sont pas très nombreux.
Non, il n'y a personne. Mais à part, Ilonen est avec l'équipe en ce moment. S'il était à Laval, ce qui va probablement, tu sais, si Laval fait les séries, j'imagine qu'il va aller jouer là.
Ouais.
C'est le seul gars qui est comme un peu entre les deux. Tu sais, c'est comme... Mais à part ça, il n'y a personne.
Exact. Fait que dans ce contexte-là, tu dis, bon, ben, au lieu de donner par défaut à un gars qui n'est pas tout à fait de la Ligue nationale un poste, peut-être que tu peux aller chercher un gars qui approche la fin de la carrière, qui, lui, se contenterait d'un salaire très modique, puis que tu dis, ben, tu le places sur ton quatrième trio, puis il apporte ce type de présence-là aussi comme élément complémentaire. Tu sais, un genre de Nick Foligno, par exemple. Tu sais, lui, c'est le genre de profil que je verrais. Parce que justement, lui, je pense qu'il est tout à fait conscient du fait qu'il n'est plus le joueur qu'il a déjà été. Mmh. Alors, c'est vrai que ce serait le fun que ce soit des joueurs qui aient de l'impact, mais en même temps, je vois pas vraiment ça. C'est beaucoup plus au niveau des rôles de soutien, justement, où là, tu dis, ben là, on pourrait les donner à des jeunes, mais si on n'a pas de jeunes qui sont prêts immédiatement à rentrer dans la formation... je mentionnais Heinemann, peut-être que ça va être Sean Farrell aussi, parce que lui, on peut s'attendre à ce qu'il signe un contrat chez les professionnels. On verra s'il jouera la saison prochaine à Montréal ou à Laval. Mais s'il manque de jeunes pour compléter la formation l'année prochaine, peut-être qu'à ce moment-là, on fait d'une pierre deux coups en allant chercher du leadership puis en comblant un poste au sein, par exemple, d'un quatrième trio.
Puis une chose que j'ajouterais juste en terminant, c'est que moi, je vois moins Martin Saint-Louis comme le de facto capitaine de l'équipe. Moi, je le vois comme le visage de la concession. C'est vraiment... Il y a une distinction à faire. C'est comme... Je trouve que la marque du Canadien en ce moment est liée à Martin Saint-Louis. Mm-hmm. On l'a vu de la façon la plus flagrante possible au repêchage quand il est allé... Oh, il est allé en scène, puis il a fait une speech en levant, puis toute le Centre Bell était en train de crier, puis il a terminé son speech avec un gros go, abs go, avec, tu sais, en levant un point dans les airs et tout ça. C'était, tu sais, puis là, c'était comme, OK, c'est lui le Canadien en ce moment, là. Le Canadien, c'est lui. Ce qui est différent d'être le capitaine d'une certaine façon, tu sais, c'est que, parce que je pense que une chose que Martin Saint-Louis fait très bien, c'est qu'il est capable de tracer une ligne entre son rôle à lui puis les joueurs. Les joueurs sont les joueurs, lui c'est le coach, il va pas dans la chambre tout le temps être buddy-buddy avec eux, c'est vraiment, il comprend c'est quoi être joueur, il comprend quand il était joueur, comment il aimait pas ça quand les coachs faisaient ça. Alors lui, c'est le coach, il aime ses joueurs, mais tu as besoin de quelqu'un sur la glace qui mène le bateau un peu. Mais en termes de la concession, en termes de ce que le Canadien est en train de faire, c'est clair que c'est lui. Là. C'est tout lié à lui. C'est quasiment la même chose. Tu penses au Canadien en ce moment, tu penses à Martin Saint-Louis. Avant, pendant des années, tu pensais à Carey Price, puis là, c'est lui. C'est lui, ce gars-là.
Ouais, c'est un petit peu, c'est le phénomène Philippe Alou avec les expos, tu sais.
Tout à fait, c'est ça. Joe Torre avec les Yankees, il y a certains moments où tu as eu ça, mais pour un entraîneur qui est tellement jeune, qui est en train de diriger une équipe jeune, mais une concession avec tellement d'histoires, c'est quand même assez unique comme parcours. Tu sais, Philippe Alou est arrivé à la fin de sa carrière, tu sais, c'était un gars qui avait une longue feuille de route et il avait mérité le respect qu'il a eu même s'il n'était pas nécessairement gérant avant, mais c'est quand même quelque chose que tu sais, il avait l'âge pour le faire. Martin Saint-Louis, c'est un jeune homme, là. C'est quand même, tu sais, il n'est pas assez jeune pour jouer, mais c'est quand même, ça fait pas longtemps que depuis qu'il a joué, là. C'est quand même assez unique qu'il est tellement rapidement devenu ce présence-là au sein de cette concession-là.
Oui, absolument. Mais juste pour qu'on se comprenne bien, moi, mon impression de dire le capitaine de facto, c'était beaucoup plus l'impression initiale la saison dernière et non pas cette année. Mais je te rejoins tout à fait par rapport au fait qu'en ce moment, il est le visage de la concession. Merci Harpin. Écoutez, tout le monde, merci d'avoir été des nôtres. Si jamais vous nous écoutez sur Apple Podcasts, n'hésitez pas à aller nous donner une note, laisser un commentaire. Là, dernièrement, les derniers commentaires qu'on a eus, c'est surtout des commentaires anglophones. ce serait le fun que nos auditeurs francophones emboîtent le pas et laissent un commentaire à leur tour. C'est toujours le fun, toujours apprécié. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Puis Harpin, ben nous, on se retrouve lundi pour... Ah non! On se retrouve pas lundi.
Non, ben moi, je serai là lundi.
Toi, tu vas être là. Moi, je serai pas là. Écoutez,
toi, tu serais pas là.
C'est ça. Moi, je vais rater les deux prochains épisodes. Mais vous êtes en bonne main, tout le monde, parce que vous le connaissez, Harpin. C'est un bon Jack, là, quand même.
Alors, moi, je vais vous rejoindre lundi pour The Athletic Support. Marc-Antoine prend une petite semaine de break, mais il serait de retour la semaine d'après. Alors, pour nous autres, à lundi. Bye-bye. Bonne fin de semaine.